Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection d'un texte tiré du média suivant. Sélection du Reader's Digest. Au programme, les dates importantes qui ont marqué le Québec depuis 75 ans. Bonne écoute!
Les dates importantes qui ont marqué l'histoire du Québec depuis 75 ans. Un texte de Erika Bisaillon et Marie-Claude Ouellette, paru le 13 novembre 2022 dans la sélection du Reader's Digest. Pour célébrer le 75e anniversaire de sélection du Reader's Digest, nous avons décidé de compiler certaines des dates importantes de l'histoire du Québec. Parmi les dates importantes de l'histoire du Québec, la signature du refus global, 1948. Impossible de ne pas classer la signature du refus global dans les dates importantes de l'histoire du Québec. Le refus global est un manifeste rédigé par Paul-Émile Bordua et co-signé par 15 membres du mouvement artistique des automatistes. Il remet en cause les valeurs traditionnelles du Québec et encourage l'ouverture de la société québécoise à la pensée internationale. Publié le 9 août 1948 à la librairie Tranquille de Montréal, le manifeste est rapidement censuré par la presse. Les pouvoirs publics de l'époque s'arrangent même pour que Paul-Émile Bordua perde son emploi à l'École du meuble, où il enseigne depuis 11 ans. Extrait du manifeste. Un petit peuple serré de près aux soutanes restés les seuls dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. La grève de l'amiante, 1949. Cette grève fut déclenchée en février 1949 par les travailleurs de l'amiante de Thetford Mines et d'Asbestos, aujourd'hui Val des Sources. Quelques 5 000 mineurs syndiqués descendirent dans les rues pour revendiquer un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail. Le gouvernement de Maurice Duplessis déclara la grève illégale, ce qui entraîna de violentes manifestations. Les grévistes obtinrent le support de l'Église catholique et reçurent des dons en provenance de toutes les régions du Québec. Au bout de 4 mois et demi, les deux parties négocièrent une entente. La Société Radio-Canada diffuse sur les ondes télévisuelles 1952. La Société Radio-Canada, SRC, introduit la modulation de fréquence, radio FM, en 1946. 6 ans plus tard, en 1952, la SRC entame la diffusion d'émissions de télévision. Pour ce faire, la SRC ouvre la station CBFT à Montréal le 6 septembre. La station CBLT ouvrira à Toronto le surlendemain. Ce n'est toutefois que le 1er septembre 1966 que la télévision couleur fait son apparition dans la programmation de Radio-Canada. Le papillon multicolore ouvre ses ailes avant et après certaines émissions. 50% des émissions du soir et 25% des émissions du matin sont en couleur. Il fallut attendre jusqu'en 1974 pour que toutes les émissions de la chaîne Radio-Canada soient diffusées en couleur. Comment ne pas insérer ces événements dans les dates importantes de l'histoire du Québec? Chose certaine, le premier poste de télévision fait partie des 15 choses dont se souviennent les enfants des années 50. Maurice Duplessis crée l'impôt provincial, 1954. Le 24 février 1954, le gouvernement de Maurice Duplessis instaure l'impôt provincial sur le revenu des particuliers. Celui-ci équivaut à 15% de l'impôt que le gouvernement fédéral exige des contribuables. Les contribuables québécois deviennent ainsi en 1954 les seuls au pays à cumuler 2 niveaux d'imposition. Au cours de la Seconde Guerre, le gouvernement canadien a demandé aux provinces de lui céder temporairement ses champs de taxation afin de lui permettre de financer son effort de guerre. Avant 1942, la taxation était de juridiction provinciale. Une fois le conflit terminé, Maurice Duplessis tente d'obtenir un rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant le conflit. En janvier 1955, les pourparlers entre Louis Saint-Laurent à Ottawa et Maurice Duplessis à Québec aboutiront à une entente. Grâce à la péréquation, le gouvernement québécois pourra reprendre une partie de son autonomie fiscale sans que les contribuables québécois ne soient pénalisés par rapport aux autres Canadiens. L'émeute du Forum de Montréal, 1955, fait partie des dates importantes de l'histoire du Québec. Le 17 mars 1955, une émeute éclate au Forum de Montréal. À la suite de l'explosion d'une bombe fumigène, les spectateurs évacuent l'amphithéâtre. La colère de la foule est attisée par la présence de Clarence Campbell, président de la Ligue nationale de hockey. La veille, celui-ci a suspendu pour le reste de la saison et les séries éliminatoires le joueur Maurice Richard à la suite d'une bagarre survenue le 13 mars à Boston. Les spectateurs évacués rejoignent des milliers de personnes qui appuient Maurice Richard et crient à l'injustice. Au lendemain de l'émeute, Maurice Richard appelle ses partisans au calme. La grève des réalisateurs de télévision de Radio-Canada, 1958. Au cours de cette grève qui se déroule du 29 décembre 1958 au 7 mars 1959, 74 réalisateurs de la Société Radio-Canada exigent d'être reconnus comme créateurs et de pouvoir former un syndicat de cadres. Les grévistes reçoivent le soutien de centaines d'artistes, de techniciens, de journalistes et d'auteurs qui refusent de franchir les lignes de piquetage. Le conflit opposant des employés de la SRC majoritairement canadiens-français à des patrons majoritairement anglophones se transforme rapidement en crise politique et sociale. Après 68 jours de débrayage, les réalisateurs obtiennent finalement gain de cause. René Lévesque a été un acteur majeur des revendications et des négociations, ce qui lui a notamment permis de gagner en popularité auprès des Québécois. L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, 1959. Reliant Montréal au Grand Lac, la voie maritime du Saint-Laurent est considérée comme l'une des merveilles de l'ingénierie du XXe siècle. Ce réseau de canaux, d'écluses et de chenaux permet de transporter des marchandises entre l'Atlantique et le cœur du continent nord-américain. Cette voie de navigation a nécessité 5 ans de travaux dont les coûts sont évalués à 1 milliard de dollars. Elle a été inaugurée le 26 juin 1959 en présence du premier ministre canadien John Diefenbaker, du président américain Dwight Eisenhower, de la reine Élisabeth II et du prince Philippe. Le droit de vote provincial passe à 18 ans, 1963. En 1963, le gouvernement libéral, dirigé par Jean Lesage, qui fait adopter la loi sur le suffrage universel, modifiant l'âge légal pour voter. L'âge requis passe alors de 21 à 18 ans. Cette modification augmente de 18 % le pourcentage de personnes pouvant voter entre les élections générales de 1962 et de 1966. Il faudra toutefois attendre jusqu'en juin 1970 pour qu'une loi permette à tous les jeunes Canadiens de voter aux élections fédérales dès l'âge de 18 ans. Ces modifications au suffrage universel sont très importantes et déterminantes dans l'histoire du Québec et du Canada. Les Trois Colombes, 1965. Les Trois Colombes est une expression canadienne qui fait référence à trois hommes politiques libéraux: Jean Marchand, Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau. Le 10 septembre 1965, Jean Marchand, alors président de la Confédération des syndicats nationaux, CSN, depuis 4 ans, Gérard Pelletier, ex-rédacteur en chef de la presse, et Pierre-Éliott Trudeau, professeur de droit à l'Université de Montréal, confirme la rumeur indiquant qu'il se présente aux élections fédérales dans le Parti libéral à l'invitation de Lester B. Pearson. L'expression « trois colombes » est employée pour la première fois par le journaliste montréalais Jean Dufresne. Elle fait référence au fait qu'à Ottawa, Lester B. Pearson, âgé et unilingue anglophone, craint les conséquences de la Révolution tranquille qui bat son plein au Québec. Les colombes sont des symboles de paix et d'espoir. Vous écoutez les dates importantes qui ont marqué l'histoire du Québec depuis 75 ans. Un texte de Erika Bisaillon et Marie-Claude Ouellette, paru le 13 novembre 2022 dans la sélection du Reader's Digest. Inauguration du métro de Montréal, 1966. C'est le 14 octobre 1966 que Jean Drapeau proclame l'ouverture officielle du transport collectif souterrain de Montréal. Le gigantesque chantier a été complété avec brio et tous semblent enthousiastes face à l'événement de ce symbole typiquement montréalais. La station Rosemont est au sommet du palmarès et est nommée station la plus populaire chez les usagers grâce à ses couleurs contrastantes et à la courbe de ses colonnes. Certains journalistes vont même jusqu'à comparer la station Grimaldi à une cathédrale, alors que d'autres placent la station Peel au rang de chef-d'œuvre. De nos jours, la magnifique verrière de la station Charlevoix impressionne les clients. L'exposition universelle, 1967, fait partie des dates importantes de l'histoire du Québec. Le pavillon du Canada est un des pavillons les plus populaires de l'Expo 67. Il présente l'Arbre des gens, une attraction réunissant pas moins de 1500 photos d'habitants du Canada. Le pavillon du Canada est aussi reconnu pour sa structure pyramidale inversée haute de 9 étages. Elle se nomme Katimavik, un mot inuit qui signifie « lieu de rassemblement ». C'est lors de la fête du Canada, le 1er juillet 1967, que le pavillon connaît sa plus forte fréquentation quotidienne. L'Hostie Show, 1968. Ce spectacle révolutionnaire a pris l'affiche au théâtre de Quatsou le 28 mai 1968. Mis en scène par Paul Buissonneau, il mettait en vedette Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Mouffe, Louise Forestier, le quatuor Le Jazz Libre du Québec et l'organiste Jacques Perron. L'Hostie Show a été créé dans un climat social de contestation qui régnait tant au Québec, en France qu'aux États-Unis. Cette œuvre empreinte de folie consistait en un audacieux mélange de chansons, de monologues et de sketchs mettant de l'avant le joual. Le Bed-in pour la paix de Montréal, 1969. Le 26 mai 1969, John Lennon et Yoko Ono arrivent à l'hôtel Reine-Élisabeth où ils occupent les suites 1738, 1740 et 1742. C'est dans la chambre 1742 que le lit nuptial est installé pour les 8 jours que dure le Bed-in de Montréal. John Lennon y a écrit une ébauche de la chanson « Come Together », en plus d'y écrire les paroles de l'hymne à la paix « Give Peace a Chance ». C'est le Montréalais André Perry, faisant office de directeur de l'enregistrement, qui capte l'événement avec un équipement très rudimentaire et 8 microphones. N'étant pas satisfait du son, ce dernier propose à John Lennon de remixer la chanson dans son studio. Ayant enregistré le chanteur sur une piste solo, André Perry demande alors à ses amis de rechanter sur une autre piste pour recréer la foule d'invités et de journalistes présents dans la chambre d'hôtel. C'est ainsi que l'on peut entendre des accents québécois. Le Québec donne le droit de vote aux Premières Nations, 1969. Le Québec est la dernière province à donner le droit de vote aux Premières Nations. De plus, l'obtention du droit de vote au fédéral pour les Autochtones s'est faite en 1960, soit près d'une décennie auparavant. On doit cette avancée à Jean-Jacques Bertrand sous la bannière de l'Union nationale. La crise d'octobre, 1970. À l'automne 1970, une série d'événements sont perpétrés par le Front de libération du Québec, FLQ, notamment l'enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross et l'assassinat du ministre québécois Pierre Laporte. En réponse à ces actes violents, le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau envoie environ 12 500 soldats au Québec. Il invoque la loi sur les mesures de guerre, ce qui entraîne la suspension des libertés civiles et rend illégale l'appartenance au FLQ ou à toute association du même genre. S'ensuivent près de 500 arrestations, dont plusieurs injustifiées. La crise se solde par l'incarcération des principaux acteurs du FLQ. Les Jeux olympiques de Montréal, 1976. Le 13 juin 1968, à l'initiative du maire Jean Drapeau, la ville de Montréal propose sa candidature à titre de ville hôtesse des Jeux olympiques de 1976. Le rêve olympique du maire se concrétise lorsque, le 12 mai 1970, le Comité international olympique nomme Montréal ville hôte des Jeux de la 21e Olympiade, alors en compétition contre Los Angeles et Moscou. La victoire de Gilles Villeneuve, 1978. Le Grand Prix du Canada, créé en 1967 et tenu jusqu'alors à la piste Mossport en Ontario, a lieu pour la toute première fois à Montréal le 8 octobre 1978. C'est au circuit de l'île Notre-Dame que Gilles Villeneuve remporte la Formule 1 au volant de sa Ferrari devant plus de 72 000 spectateurs. Cette piste porte d'ailleurs maintenant son nom, le circuit Gilles Villeneuve. Le premier référendum québécois, 1980. Le premier référendum portant sur la souveraineté du Québec organisé par le gouvernement du Parti québécois dirigé par René Lévesque divisait en deux camps la population québécoise, le camp du « oui » et le camp du « non », c'est-à-dire ceux qui étaient favorables, oui, à la proposition du Parti québécois déclinée dans la question référendaire et ceux qui s'y opposaient, non. C'est le 20 mai, au Centre Paul Sauvé à Montréal, que René Lévesque a prononcé sa phrase emblématique qui marquera l'histoire du Québec. « Si j'ai bien compris, mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. » Le dernier épisode de Bobino, 1985. Bobino était une série télévisée pour enfants qui possède un statut de série culte de par sa longévité exceptionnelle. En effet, plus de 5000 épisodes, dont 1600 en noir et blanc, ont été créés par Guy Sanche, Bobino, et diffusés entre le 23 mai 1957 et le 14 juin 1985 à la télévision de Radio-Canada. L'attentat antiféministe survenu à l'École polytechnique, 1989. Le 6 décembre 1989, un peu passé 17 heures, un homme âgé de 25 ans entre dans une classe de génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal, armé d'un fusil semi-automatique obtenu légalement. En plein tourbillon de la fin de session, les étudiants croient d'abord à une farce. Après avoir séparé les hommes des femmes, il ouvre le feu sur elles en criant « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes. » Dans l'attaque, 14 femmes ont perdu la vie. Il a également blessé 13 autres personnes, 9 femmes et 4 hommes, avant de retourner l'arme contre lui. Dans sa note de suicide, il reproche aux féministes d'avoir ruiné sa vie. Sa note énumère 19 féministes radicales qu'il aurait tuées si l'on avait eu le temps. Sur la liste se trouvent des vedettes bien connues au Québec. Il s'agit de la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. La crise d'Oka, 1990. La crise a été déclenchée par un projet d'expansion d'un terrain de golf et de projets de développement résidentiel sur des terres contestées comprenant un cimetière Mohawk. Ce projet a lieu dans un secteur où les Mohawks demandaient la reconnaissance de leurs droits territoriaux depuis la conquête de 1759-1760. En guise de protestation, les Mohawks érigent des barrages dans le but d'empêcher l'agrandissement d'un terrain de golf. Le 11 juillet, la Sûreté du Québec décide de démanteler les barrages et plusieurs coups de feu sont tirés. Les tensions qui suivirent ont duré 78 jours et ont été ravivées par le décès d'un caporal de la Sûreté du Québec, Marcel Lemay. Finalement, l'armée a été sollicitée et les manifestations de protestation ont pris fin. L'agrandissement du terrain de golf a été annulé et les terres ont été acquises par le gouvernement fédéral. Cependant, elles n'ont pas été établies en tant que réserve et n'ont toujours pas fait l'objet d'un transfert officiel au Mohawk de Kanisatake. Vous écoutez les dates importantes qui ont marqué l'histoire du Québec depuis 75 ans. Un texte de Erika Bisaillon et Marie-Claude Ouellette, paru le 13 novembre 2022 dans la sélection du Reader's Digest. Le référendum sur la souveraineté du Québec, 1995. À la suite de l'échec des accords du lac Meech et de Charlottetown, l'incertitude règne quant à l'avenir constitutionnel du Canada. Le Parti québécois dirigé par Jacques Parizeau décide de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. Les Québécois sont invités à se prononcer sur la question suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin? Le 30 octobre 1995, le non l'emporte avec 50,58% des voix. L'écart entre les deux camps n'est que de 54 288 votes. Parmi les dates importantes de l'histoire du Québec, la crise du verglas, 1998. La tempête du verglas ou encore la crise du verglas a marqué la conscience collective des Québécois. Au total, plus de 100 mm de pluie verglaçante tombent entre le 4 et le 10 janvier 1998. La tempête cause notamment des pannes d'électricité majeures, jetant 1,4 million de foyers dans le noir, sans électricité, en plein hiver. 600 000 personnes ont dû être déplacées temporairement. Fermeture de routes, affaissement de structures, bris de millions d'arbres, explosion de transformateurs électriques. Les dégâts matériels de toutes sortes ont été estimés à plus d'un milliard de dollars. L'ouverture de la Grande Bibliothèque, 2005. La Grande Bibliothèque est la plus vaste bibliothèque publique au Québec. Elle a ouvert ses portes au public le 30 avril 2005. Sa mission consiste à servir de bibliothèque centrale aux Montréalais et de bibliothèque ressource à l'ensemble des Québécois. Principal lieu de diffusion de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, elle comprend plus de 4 millions de documents, dont 1 million de livres. Le bâtiment de verre, de béton et de bois, bouleau jaune, a été conçu par l'équipe Patco Craft Pelletier, Gilles Guitté, des firmes d'architecture basées à Vancouver, Québec et Montréal. Située sur la rue Sherbrooke, face au parc La Fontaine, la Bibliothèque centrale de Montréal demeura la principale bibliothèque publique de la métropole jusqu'en 2005. La fin du lockout au Journal de Montréal, 2011. Les employés du Journal de Montréal acceptent le 26 février 2011 les offres de la partie patronale à 64,1%, ce qui met fin au plus long conflit de travail dans l'histoire de la presse canadienne. Le lockout aura duré 764 jours, 25 mois. Les deux parties sont incapables de s'entendre sur les dispositions d'un nouveau contrat. D'importantes coupures de postes sont justifiées par la situation changeante dans le monde de la presse écrite. Québécois décide alors de mettre les employés du Journal de Montréal en lockout le 24 janvier 2009. Deux jours plus tard, le syndicat des travailleurs de l'information du journal votait à 99 % en faveur de la grève. Malgré le lockout, le Journal de Montréal a continué d'être publié grâce à la collaboration de pigistes et de l'agence de presse QMI, fondée à l'automne 2008. La grève étudiante, 2012. Cette grève a été déclenchée par l'annonce d'une hausse substantielle des droits de scolarité universitaire par le gouvernement libéral de Jean Charest. Du 13 février au 7 septembre 2012, la province fut le théâtre de nombreux actes de contestation tels que des manifestations et des concerts de casseroles. Il s'agit de la plus longue grève étudiante survenue au Canada. Elle a définitivement marqué l'histoire du Québec. Le conflit a pris fin à la suite de l'annulation de l'augmentation des droits de scolarité décrétée par le gouvernement péquiste de Pauline Marois. La dernière représentation de Brou, 2017. Brou est une comédie théâtrale dont l'action se déroule dans une taverne où différents personnages hauts en couleur échangent sur leur vie. Elle a été présentée plus de 3000 fois sur une période continue de 38 ans et vue par plus de 3 millions de spectateurs depuis sa création en 1979. Brou est donc considéré comme le plus grand succès de l'histoire du théâtre au Québec. Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier ont offert la dernière représentation le 22 avril 2017. C'était les dates importantes qui ont marqué l'histoire du Québec depuis 75 ans. Un texte de Erika Bisaillon et Marie-Claude Ouellette, paru le 13 novembre 2022 dans la sélection du Reader's Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.